Et donc au menu de notre club aujourd'hui, beaucoup de choses en effet. Deux bandes dessinées, la première sur une approche mathématique du hasard, la seconde sur la grossesse vue par les yeux d'un papa. Et puis nous parlerons également de la relation des ados avec les réseaux sociaux et de la science qui s'invite au théâtre. Je vous présente mes invités dans un instant. Pour la première fois, des champignons hallucinogènes sont démontrés, leur efficacité dans le traitement de la dépression chronique. Et c'est à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, des essais compliqués à mener, vous l'imaginez, mais prometteurs. Les débuts de la champithérapie dans un instant à la une.
C'est Céline Hila qui est aux commandes de notre Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Emmanuel Fournier avec Dylan Byner.
La Tête au Carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et il y a du monde donc aujourd'hui autour de la table. Aline Richard, Angie Gozlan, Ivar Ekeland, Yva Gide, Étienne Lecroart et Cookie Calcaire. Bonjour à tous, bienvenue. Un nouveau rendez-vous. Donc, bonjour, est-ce que vous êtes là au moins autour du micro?
Bonjour.
Enfin, ils sont un peu endormis mes camarades. Un nouveau rendez-vous donc en partenariat avec The Conversation. C'est un site de partage de savoir. Aline Richard, on accueillera donc tous les mois dans notre club un chercheur ayant rédigé un article sur votre site. Pour ce premier rendez-vous, vous êtes accompagnée d'une psychologue clinicienne?
Absolument. Angélique Gozlan, qui est psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie. Et nous allons parler du rapport qu'entretiennent nos adolescents, les adolescents, avec les réseaux sociaux.
Oui. Angélique Gozlan, donc c'est votre thème de recherche. On verra avec vous quels peuvent être les impacts psychiques de l'usage de ces réseaux sociaux.
Tout à fait. Les impacts psychiques positifs et négatifs.
Oui. Ivar Ekeland, vous êtes mathématicien. Étienne Lecroart, vous êtes auteur de BD. Et ensemble, pas auteur de BD encore,
oh, hein, ça viendra peut-être.
Mais enfin, quoique, vous l'avez fait, votre petit bébé, avec les éditions Le Lombard. Ivar Ekeland, est-ce que les mathématiques détiennent les secrets pour expliquer justement le hasard? Ça fait longtemps que vous intéressez, vous, à ce sujet. Hein.
Oui, et je n'ai toujours pas vraiment compris. Ah,
c'est vrai.
Le sujet est très intéressant, il a une longue histoire et je suis prêt à continuer.
Bon, mais c'est bien, ça nous rassure. Étienne Lecroart, est-ce qu'à l'issue de cette bande dessinée, vous savez si le hasard existe ou pas?
J'ai une idée, oui, mais je ne vais pas en parler comme ça en deux secondes. Mais oui, je suis, c'est un peu plus clair.
Bon, voilà donc une piste à creuser avec vous. Cookie Calcaire, vous êtes vous également auteur de bande dessinée. Vous publiez « Les 9 derniers mois de ta vie de petit con », publié aux éditions Les Arènes, 42 semaines avant la naissance de votre fils. Donc ça laisse du temps visiblement pour dessiner un album. Le petit con, c'est vous, hein?
Le petit con, c'est moi. Ouais. Enfin, c'est moi avant d'avoir mon fils.
Vous avez tellement changé, c'est ça?
Oui, j'ai eu 9 mois pour me préparer, puis là, ça y est.
Et donc,
je suis sorti de la chrysalide.
Faire cette bande dessinée qui est extrêmement drôle et dont on va parler avec vous. Et puis enfin, Yva Gide, le 3 septembre aura lieu sur la scène de l'Odéon, la deuxième édition de Extra Odéon. Le thème central reste les grands défis de la science en matière de santé, c'est ça?
Oui, c'est ça. Que sera la médecine de demain? Quels sont les enjeux sociaux? Et puis surtout, quelles seront les grandes ruptures scientifiques pour la médecine et la santé?
Et on annoncera le programme en avant-première. Voilà donc pour le sommaire de ce club. J'attends dès maintenant vos messages et vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Soigner la dépression chronique avec des champignons hallucinogènes. Une drôle d'idée à la une de la science aujourd'hui.
J'ai ramassé des champignons.
Voilà de jolis champignons de toutes les couleurs. On appelle ça la triptérapie ou la médecine psychédélique. Depuis quelques années maintenant, des psychiatres américains et londoniens s'intéressent de près aux effets de la psilocybine, la substance active des champignons hallucinogènes. Les premiers résultats pour traiter les dépressions chroniques sont publiés cette semaine dans The Lancet. Ils sont très intéressants et on en parle avec vous. Laurent Carilla, bonjour. Allô Laurent Carilla.
Oui,
bonjour.
Oui.
Vous êtes avec nous en ligne. Oui, on vous entend. Vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes psychiatre addictologue, un produit stupéfiant pour traiter les dépressions chroniques. L'idée vous paraît séduisante comme ça sur le papier déjà?
Le papier est très intéressant, mais c'est vrai que cette idée-là remonte aux années 50, 70. Il y avait déjà eu des petits essais comme ça d'utilisation de la psilocybine dans des addictions à des substances, notamment aux opiacés.
Jamais poursuivi ces essais?
Non, ça avait été laissé de côté par les nombreux effets indésirables et le manque de rigueur scientifique, en fait, de méthodologie en tout cas.
Alors là, c'est une toute petite étude, hein, 12 personnes. 3 mois après, 6 personnes étaient en rémission. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce genre de résultats sur des cohortes si petites?
Bah, c'est un essai ouvert déjà, il est non contrôlé. C'est juste, c'est une indication, on va dire, de sécurité d'emploi de la psilocybine dans ce type diagnostique. Il faudrait un groupe contrôle, placebo, il faudrait un essai beaucoup plus large, en fait.
Ça veut dire quoi? Il faut dire
que c'est efficace.
C'est ça, il faut être très mesuré sur les résultats d'une telle étude, justement.
Oui, c'est très très intéressant, ça a été publié dans une très belle revue. Il y a différentes équipes qui travaillent sur la psilocybine, notamment dans des pathologies mentales et addictives, mais on est loin encore de la psilocybine est un traitement efficace dans cette maladie. Quoi. Voilà.
Et comment se passe une séance? Parce que c'est vraiment des séances de trip encadrées.
Ouais, c'est excellent, le design est assez excellent. Quoi. Les patients donc étaient recrutés. Déjà, les critères d'inclusion, c'est vraiment des patients qui ont un seul trouble, sans anomalie, autre psychiatrie type psychotique, etc. Ils étaient dans une chambre allongée. Il y a un psychiatre de part et d'autre du lit. C'est un truc improbable, hein, mais c'est des études. Et il y a un peu de musique avec une faible lumière. Donc c'est fabuleux, le suivi du patient. Il recevait une première dose faible et une deuxième dose une semaine plus tard.
Donc plus importante pour la seconde dose, j'imagine.
Ouais, plus importante, ouais.
Et ça suffisait pour soigner la dépression?
Ben, on voit sur cet essai-là, enfin, sur cette étude-là, que il y avait des effets, on va dire, bénéfiques sur certains symptômes à trois mois après.
Quels sont les effets qu'on cherche à produire sur le cerveau de ces patients?
Ben, en gros, c'est les effets du trip, hein. C'est des espèces de développement personnel positif, une meilleure estime de soi, les sens un peu aiguisés, on se sent un peu libre, en harmonie avec plein de choses, et il peut avoir des trucs un peu mystiques, sans que ça soit délirant, hein. Donc il y a le côté introspection, désinhibition, le côté un peu antidépresseur, parce que de toute façon la psilocybine est un agoniste des récepteurs sérotoninergiques, donc il y a un effet clair sur...
Ça c'est beau, hein, ce que vous venez de dire, Laurent. Là, on est tout... Ah non, mais la formule, elle est choisie. Hein. Vous pouvez nous le refaire d'ailleurs, s'il vous plaît, c'était tellement beau.
Agoniste des récepteurs sérotoninergiques.
Ah oui, c'est très beau. Ouais.
Le but, c'est quoi? C'est réenclencher des mécanismes oubliés depuis longtemps, du plaisir, de la récompense, des choses comme ça?
Le but, ce serait de retrouver un état de bien-être qu'on a déjà connu et une espèce de rémission de ces symptômes résiduels dépressifs, quoi, c'est-à-dire la tristesse, l'envie de rien, du mal à prendre des décisions, des problèmes cognitifs, etc.
Et pourquoi on a donné des champignons à ces personnes en particulier?
En fait, la pathologie là sur laquelle les patients sont inclus, c'est une dépression chronique, c'est-à-dire qui est résistante à des traitements pharmacologiques classiques, bien conduits, après 6 semaines de traitement pour chaque. C'est souvent combiné de la psychothérapie et ils répondent pas. Donc l'idée, c'est de restimuler différemment certaines zones du cerveau pour retrouver justement ce bien-être.
Notre neurologue Yvagine, un commentaire sur cette étude, qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que vous avez très bien dit, la psilocybine est un agoniste des récepteurs de sérotoninergie. Décidément, ça va rester. Ouais. Et donc, c'est rejoint le mécanisme bien connu des antidépresseurs. Mais il y a aussi probablement quelque chose, je vous pose la question, c'est que quand on fait de manière très brutale, on donne une substance hallucinogène aussi puissante, hein, on le sait, les champignons hallucinogènes, est-ce que c'est pas comme donner un coup de marteau sur la tête? C'est-à-dire on fait une sorte de reset, comme dans certains cas d'épilepsie par exemple, on fait des électrochocs. Alors c'est une espèce de coup très brutal qui arrive sur le cerveau et qui remet le cerveau à l'heure. Mmh. Je pense quelque chose de peu spécifique.
Laurent Carrella?
Oui, c'est ça, c'est pas démontré, mais l'idée, j'ai repris les études grâce à Axel sur le tabac. C'est pareil, il y avait eu l'adjonction de la psilocybine chez les addicts au tabac qui étaient résistants à différents types de traitements, et on a vraiment l'impression que c'est, il y a comme ce que vous dites, ce reset du système de récompense, etc., enfin des autres systèmes cérébraux, mais faut le démontrer à long terme, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe, mais il n'y a pas d'efficacité démontrée de la psilocybine dans les différents troubles. En tout cas, il y a des signaux, quoi.
Vous faites référence à des tests menés aux États-Unis sur l'alcool et le tabac. Mais justement, exactement, est-ce qu'il n'y a pas risque de transfert d'addiction dans ces cas-là?
La psilocybine, elle entraîne des phénomènes addictifs, on va dire, plutôt de l'ordre psychologique. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène de tolérance, mais qui s'arrête, donc d'augmenter les doses pour retrouver les effets initiaux. Après, il y a toutes les questions de vulnérabilité des patients. C'est vrai que il y a un risque, enfin, faut bien contrôler les choses chez des patients addicts ou même polyaddicts, de donner de la psilocybine à des patients polyaddicts, c'est risqué, honnêtement.
Merci beaucoup en tout cas Laurent Carilla pour votre éclairage. Donc petite étude on l'a dit, mais dans une revue sérieuse et qui méritera évidemment d'être suivie de près sur les prochaines études sur le sujet. Merci beaucoup en tout cas. Merci Axel, passez un bon week-end.
Ne pas essayer chez soi, dans tous les cas.
Tant qu'à faire, n'allez pas la cueillette aux champignons ce week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, il y a environ 3,4 milliards d'années, Mars aurait subi deux immenses tsunamis, estimés entre 50 et 120 mètres de haut. Des raz-de-marée probablement provoqués par des impact d'astéroïdes à une époque où l'hémisphère nord de la planète rouge était couvert d'un vaste océan. La preuve est apportée par des images satellites de la planète. Les chercheurs viennent de découvrir un lien entre la prise d'antibiotiques et le fonctionnement du cerveau. En donnant à un groupe de souris assez d'antibiotiques pour tuer leurs bactéries intestinales saines, ils ont remarqué qu'elles ne produisaient plus de nouvelles cellules dans l'hippocampe, la zone du cerveau dédiée à la mémoire. Une découverte double, car ils en déduisent également que certains globules blancs serviraient de messagers entre l'intestin et le cerveau en cas de problème. Un champ d'étude tout à fait nouveau qui permettra d'imaginer de nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives et les troubles psychiatriques. Et puis un nouveau dinosaure à cornes a été découvert dans l'Utah aux États-Unis, baptisé Machairoceratops cronusi, et tout comme son cousin le Triceratops. Il possédait une collerette osseuse ornée de deux cornes, mais il était également doté de deux autres grandes cornes recourbées vers le bas derrière la tête. Vivant à la fin du Crétacé, cet herbivore devait mesurer entre 6 et 8 mètres de long, peser environ 2 tonnes. Une vue d'artiste de ce bel animal est à découvrir sur le Facebook de la Tête au Carré. Allez, le club dans un instant. Baby, can't you see? Britney Spears, Toxic.
Salut.
La tech. Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Beaucoup de sujets à aborder avec nos invités cet après-midi. Les ados et les réseaux sociaux, les mathématiques et le bazar, la grossesse en bande dessinée et puis la science sur la scène de l'Odéon. Ce sont donc les thèmes aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec vos messages sur le site de la Tête au Carré. Aujourd'hui commence donc un nouveau partenariat dans l'émission avec un site de partage des savoirs qui s'appelle The Conversation. Bonjour Aline Richard.
Bravo pour l'accent. Oui, bonjour à tous.
Je suis beaucoup entraîné pour le dire. Vous êtes journaliste scientifique et vous viendrez donc tous les mois dans l'émission accompagné d'un chercheur. Qu'est-ce que c'est que cette Conversation exactement? Alors, c'est un principe australien au départ, hein?
Absolument, c'est un site australien qui est devenu mondial. The Conversation France est né en septembre de l'année dernière. Et c'est un site, comme vous l'avez dit Mathieu, de partage des savoirs. C'est-à-dire que nous avons pour objectif et pour ambition de partager le savoir parce que nous estimons que les citoyens des démocraties se doivent d'être correctement informés et de façon, je dirais, gratuite.
Mais c'est quoi? C'est une nouvelle façon de faire du journalisme?
C'est absolument une nouvelle façon de faire du journalisme. Nous qui sommes déjà des vieux de la vieille, nous proposons aux chercheurs d'écrire des contributions. Donc il faut absolument que les différentes personnes soient du monde académique, hein, soit chercheurs, soit universitaires, et qu'ils soient affiliés et qu'ils annoncent leur affiliation, puisque nous voulons travailler en toute transparence. Ils nous écrivent des contributions sur le sujet dont ils sont spécialistes. Nous ne voulons pas de spécialistes autoproclamés sur tout et n'importe quoi. Donc on va demander à un tel et une telle de travailler sur son sujet, de nous le transmettre. Nous le publions. Le chercheur n'est pas rémunéré, mais son travail est à la disposition de la communauté, c'est-à-dire qu'il est publié sur le site The Conversation France et tout le monde peut le réutiliser. C'est très simple, vous allez sur le site, vous voyez un article qui vous intéresse, par exemple vous avez un blog, il y a un bouton republier et vous le faites et tout est facile.
Bon, bah là vous avez déjà Yves Arécoland,
je vais avoir le hasard, je vais avoir des tas de choses.
Voilà, qui pourront justement publier, pourquoi pas, tout est gratuit hein, évidemment pour ceux qui souhaitent aller consulter ce site.
Absolument, tout est gratuit.
On peut s'abonner, se désabonner gratuitement.
C'est très facile, il y a une newsletter qui arrive chaque jour dans votre boîte mail, vous pouvez y adhérer, c'est aussi très facile de dire qu'on n'en veut plus. On est vraiment dans une démarche de partage et de collaboration inédite. Hein, je le souligne parce qu'en France, c'est quand même en général pas comme ça. On est dans une démarche collaborative entre des journalistes spécialisés comme moi et mes autres confrères et consoeurs et les universitaires.
Yves Agide, ça vous intéresse cette nouvelle façon au fond de publier de la science aussi?
Absolument, absolument. La seule difficulté, c'est celle de l'évaluation des textes qui sont publiés.
Mais c'est le boulot des journalistes, là, en l'occurrence aussi.
Ouais, mais il faut, nous avons l'habitude, peut-être je suis vieux jeu aussi, d'être évalué par vos pairs, quand même. Parce que sans ça, on risque de mélanger la très bonne science avec des idées qui flottent et dont les médias, dont vous-même, cher Mathieu, vous emparez. Ouais. Et peut-être à tort. Donc je pense qu'il faut une petite évaluation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est effectivement, à mon avis, un des points vraiment délicats. Hein. Moi, qui suis journaliste scientifique depuis pas mal d'années maintenant, je sais bien que c'est assez facile de se tromper. Alors, on joue l'institution. Ça peut vous paraître un peu classique, mais en fait nous sommes un site institutionnel, c'est-à-dire que nous avons des partenaires, par exemple l'Université de Lorraine, Paris Sciences Lettres, etc., l'INRA, l'INRIA. Tous ces gens sont nos partenaires et on leur demande finalement à eux aussi, je dirais, d'adouber leurs chercheurs. Alors évidemment, on pourra toujours me rétorquer, et peut-être on aura raison que tous les chercheurs qui sont dans les institutions académiques ne sont pas forcément tous d'une qualité excellente, mais si vous voulez, bon, il y a un moment donné où on doit choisir, et moi je dois dire, bon, sur la science je peux quand même savoir un peu ce qui se fait.
Allez, Yves Arécoland, et puis ensuite on fait connaissance justement avec Angélique Gozlan.
C'est destiné aux journalistes?
Ah non,
pas du tout, c'est destiné au large public.
Ah, au large public.
Donc nous vulgarisons, en fait, quand je reçois un papier de chercheur, je le vulgarise, c'est-à-dire je l'édite, je le rends plus simple, et le chercheur C'est lui qui a la main pour publier. Ça aussi, c'est une spécificité de notre site, Conversation, qui n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire que si le chercheur n'est pas d'accord avec mon travail, il me dit, Aline, on ne publie pas. C'est lui qui décide.
Voilà, il y a beaucoup d'articles depuis septembre 2015, arrivés de The Conversation France, donc sur Internet, et donc en lien sur le site de la Tête au Carré. Alors aujourd'hui, Angélique Gozlan, vous avez publié un article sur le site. Donc il y a eu cet aller-retour aussi avec l'équipe de The Conversation.
Complètement. Oui, j'ai envoyé mon article à Aline. Aline a fait les corrections, j'ai refait des corrections et ensuite ça a été publié.
Voilà, tout le monde en fait a pu vérifier.
C'est un partage interactif.
Effectivement, vous êtes docteur en psychopathologie et psychanalyse, psychologue clinicienne à l'Université de Lyon 2 et donc vos recherches s'intéressent aux relations des adolescents aux espaces virtuels. Il y a eu évidemment cette actualité tragique avec cette jeune fille Océane, une adolescente qui s'est suicidée dans le RER en filmant en direct avec une application son suicide et c'est aussi le démarrage de votre article.
Oui, tout à fait. Parce que justement, les médias s'en emparent. J'étais assez surprise de lire tous les articles qui se sont écrits sur la toile pour marquer les effets néfastes, à la fois pour les spectateurs, en parlant carrément de traumatisme, et pour justement cette jeune fille qui utilise Periscope pour se mettre à vue de tous et se suicider. Alors que ce n'est pas le seul enjeu des réseaux sociaux à l'adolescence.
Ouais, donc c'était vraiment ce que vous aviez envie aussi d'écrire. C'était une façon de réhabiliter aussi ces réseaux sociaux qui ont parfois très mauvaise presse, justement.
Tout à fait, et aussi pour donner un accès aux parents, aux éducateurs, qui sont très inquiets et très angoissés sur ces questions, pour leur ouvrir l'idée et l'esprit sur les enjeux positifs de ces réseaux, et qu'à un moment donné, il faut bien sûr s'y inquiéter, mais pas trop.
Aline.
Ce qui est intéressant, ce qu'on a vraiment trouvé passionnant à expliquer aussi à notre audience, c'est que, en fait, tout ça, ça se passe pendant l'adolescence, une période clé de notre vie d'individu où nous nous construisons sous le regard des autres. Et en fait, aujourd'hui, le regard des autres, c'est quoi? C'est plus les gens que je vais rencontrer au bistrot de mon quartier, c'est mes amis sur Facebook. Et c'est effectivement, comme l'écrit Angélique, c'est à la fois un moyen de se construire quand ça se passe bien, quand on est assez assuré de soi-même. Eh bien, évidemment, vous n'avez pas votre maman qui est amie sur Facebook, mais ça peut se passer très mal, comme on l'a vu.
Angélique Gozlan, donc c'est quoi? C'est aussi la possibilité de construire de nouvelles identités, les réseaux sociaux aujourd'hui, pour les adolescents en particulier?
Tout à fait. Alors, il y a l'étude du Gis Marsouin qui a vraiment révélé que l'utilisation des réseaux sociaux est très forte chez les adolescents, avec plus de 80% d'utilisateurs. Et en effet, un des enjeux majeurs, c'est d'asseoir la construction identitaire des adolescents, puisqu'ils sont à une période où ils vont être en recherche de qui ils sont, en recherche de regard sur eux, et donc les réseaux sociaux et leur interactivité participent de ça.
Oui, vous avez un grand enfant, Cookie Calcaire, à votre droite, qui lui a construit son identité de papa sur le blog, en fait.
Sans les plateformes et sans les réseaux, je ne serais pas là aujourd'hui.
C'est ça. Ça vous a vraiment aidé, ça, dans votre...
Oui, moi j'ai conçu ma BD comme un blog épisodique. Chaque semaine, je diffusais un épisode. Et ce qui est fantastique aujourd'hui avec les plateformes, c'est que d'une part, c'est gratuit. C'est important de le rappeler, là. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien et dont plein de gens s'occupent et qui en plus est gratuit et très facile à utiliser. Et en plus, c'est un moyen de tester des idées et des futurs produits très très très, très facilement. Moi, j'ai eu très rapidement des réponses.
C'est aussi un moyen pour rencontrer l'autre, vous avez pu le constater.
Ça, tout à fait. Alors là, c'est vraiment un des points très importants, c'est que au-delà de l'écran, il y a des gens réels qui font que on peut avoir un regard sur ce qu'on met sur la toile, sur notre image, sur ce qu'on poste comme narration, parce que les ados postent énormément de récits de vie, avec les blogs aussi. Et donc, c'est important parce qu'ils ont un retour, il y a des identifications, il y a des résonances, et ça vient supporter l'estime de soi.
D'ailleurs, dans vos recherches, vous les appelez, ces ados qui sont sur Facebook, vous les appelez les héros éphémères.
Oui. Complètement, parce que Facebook a cette particularité de mettre en lumière, mais même Snapchat ou d'autres réseaux, de mettre en lumière à un moment donné un individu et de participer à ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire pouvoir se créer une image sociale et s'inscrire dans le lien social au sein des pairs. Et je pense qu'aussi ça participe à l'heure d'aujourd'hui, au passage adolescent, un passage ritualisé pour s'inscrire dans le social.
Il n'y a plus cette césure vraiment entre le monde réel et le monde virtuel, comme on veut bien nous le faire croire là aussi?
Alors, ça, c'est tout l'enjeu de la prévention, je pense, hein, parce que pour certains adolescents qui sont fragiles, il y a une complète confusion entre le monde réel et le monde virtuel. C'est-à-dire qu'ils pensent que, justement, le virtuel n'est qu'une illusion, hein, et qu'il n'y a pas d'autre, et qu'on peut tout à fait se montrer, que c'est un miroir juste reflétant. Mmh. Or, c'est un miroir sans teint, il y a quelqu'un derrière, et donc il faut faire très attention à ces enjeux. Le virtuel, c'est le réel.
Voilà. Donc les réseaux sociaux, c'est très positif, hein, on l'entend dans ce que vous nous dites, mais il y a aussi évidemment des aspects dont il faut
très
absolument...
Très négatifs, bien voilà, sûr. C'est ça. Il faut vraiment pas se placer, je pense que il faut pas se placer en pour ou contre, il faut se dire que c'est un outil de relation, un outil culturel, un outil d'apprentissage aussi, mais que il y a des... Voilà, selon sa personnalité, selon sa fragilité psychique, on peut être face à du harcèlement virtuel, à des déferlements de haine sur Internet qui va complètement détruire l'adolescent.
Tout ça à un âge où le cerveau est en pleine construction, hein, il vagide évidemment. L'adolescence, c'est vraiment l'âge où la plasticité joue
et
à
là,
plein.
Il y a deux énormes problèmes pour moi. C'est d'abord, dans le passé, les enfants étaient élevés dans un milieu restreint, la famille, l'école, la ville, etc. Là, on se trouve dans l'univers, c'est l'univers entier qui est là. Et donc là, c'est un bond dialectique formidable. La deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est que il n'y a pas de retour dans la relation interpersonnelle, dans la famille et ailleurs. Il y a toujours quelque chose d'humain. Là, il n'y a pas de retour. Et s'il y a un retour, c'est un retour qui est indirect, qui peut être perfide, comme vous l'avez dit, ou qui peut être au contraire tout à fait bénéfique de l'autre.
Yves Reckland, pour terminer.
Oui, une question. Que devient ce qu'on appelle dans le temps l'intimité? Je veux dire, dans les relations sociales, il y a les gens lointains, les connaissances, etc. Puis il y a les gens que je connais depuis 30 ou 50 ans. Il y a une gradation qui est assez importante. Il y a des gens à qui on parle volontiers. Comment est-ce que ça se reflète dans les réseaux sociaux? Est-ce que ça détruit tout ça? Est-ce que ça crée une uniformité? Je ne sais pas.
Alors, en effet, surtout à l'adolescence où les limites entre l'intime et le privé sont très poreuses, on observe vraiment un décalage de la frontière de l'intimité vers le public. Pour autant, Dana Boyd a très bien montré ça, hein, qui est chercheuse américaine, elle a très bien montré que les adolescents sont très au courant de ce qu'ils peuvent montrer ou pas sur la toile. Maintenant, moi, ce que j'ai montré dans ma recherche, c'est que les réseaux sociaux poussent à montrer l'intimité, et on passe à ce que j'ai appelé la désintimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'intimité est sur l'écran, elle devient complètement dépossédée parce qu'elle appartient de fait à ces milliers de personnes qui peuvent accéder, interagir sur ce qu'on dépose sur la toile. C'est pour ça que c'est très important de prévenir et d'informer les adolescents sur comment paramétrer un compte, quel est l'enjeu des paramétrages de compte pour qu'ils puissent préserver cette intimité et ne pas basculer dans ce que j'ai appelé la désintimité pure, c'est-à-dire la partition totale de son intimité dans la toile.
Merci Angélique Gozlan pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Donc vous postez aujourd'hui sur The Conversation France cet article qu'on peut lire, Aline, et puis s'abonner en même temps puisque c'est notre nouveau partenariat dans le club de la tête au carré. Je signale également que vous êtes l'auteur d'un livre, L'adolescent face à Facebook, qui paraîtra dans quelques jours aux éditions In Press. Allez, dans un instant, on parle du hasard.
Des absolus amateurs, des absolus amateurs, des absolus amateurs.
Absolu amateur, l'idéal.
Mais le hasard n'existe pas. Alcméon de Crotone l'a amplement démontré. Le simple fait que je lève mon bras n'est pas le fruit du hasard. C'est simplement l'effet d'une cause qui elle-même répond à un effet dont la cause se rattache à une chaîne infinie de causes et d'effets. Et pas de place pour le hasard. Esti garen amenapontos.
Yves Eklund, Étienne Lecroart, ensemble, vous publiez donc cette bande dessinée Le hasard, une approche mathématique, hein, qui paraît aux éditions Le Lombard dans la collection La petite BDTech des savoirs. Yves Eklund, vous êtes un grand mathématicien, reconnu par vos pairs, vous avez même un théorème qui porte votre nom, le principe variationnel d'Eklund. Vous travaillez depuis longtemps sur les notions de hasard et de chaos. Qu'est-ce qui vous fascine tant autour du hasard en tant que mathématicien? C'est ne pas avoir encore trouvé la réponse à cette question?
Oui, c'est... On n'a pas encore compris essentiellement. D'abord, c'est une notion très ancienne. Hein, c'est-à-dire, vous écoutiez la chanson là, hein, à savoir, on est construit dans notre tête pour penser que si quelque chose se passe, c'est qu'il y a une raison. Mais il y a des fois où on ne trouve pas la raison. Et alors, ça nous pose un problème. Et le problème est intéressant. Et différentes époques apportent des solutions différentes. Bon, et on cherche toujours à trouver une raison, etc., etc. C'est la recherche qui est fascinante.
Ouais. Depuis quand on s'intéresse au hasard, justement, en science?
En science, bon, ben, la science moderne, le hasard, vraiment, il apparaît comme tel, je pense, c'est avec Pascal qu'on parle de probabilité.
C'est ça. Hein.
C'est vraiment ça. Avant... Pascal, eh bien, quand on n'avait pas de cause, eh bien, on disait quelqu'un a décidé, ça peut être le dieu, c'est le destin, vous savez. Ouais. On tirait au sort dans l'ancienne Grèce, on tirait au sort certaines magistratures. Et encore maintenant.
On utilise toujours ça.
Hein. Et puis, dans les circonstances graves de la vie, par exemple, dans la Première Guerre mondiale, il faut envoyer quelqu'un dans une expédition dont il ne reviendra pas, on tire au sort parce que personne ne veut prendre la responsabilité. La décision est prise, mais on ne sait pas comment. Donc, mais la notion, vraiment, le moment où ça rentre dans les mathématiques, c'est Pascal, en l'an 1600 ou quelque chose comme ça, à propos d'un problème de carte.
Étienne Lecroart, votre rencontre avec Ivar Eklund n'est pas tout à fait liée au hasard, si on en regarde un petit peu vos parcours respectifs. D'ailleurs, vous le proposez dans cette arborescence. Hein.
Oui, enfin si, je dis justement que c'est complètement, c'est du hasard, en tout cas à mon niveau, c'est du hasard.
Oui, mais il y avait maintenant, quand même des petits éléments qui pouvaient...
Oui, il y avait forcément des croisements qui sont aussi voilà. Certainement à des hasards, mais c'est ça, ce livre, de toute façon, est le fruit du hasard, en ce sens que la probabilité pour qu'il existe jamais un jour, que je travaille par exemple avec Ivar, que je travaille dans cette collection, etc. Si on calcule la probabilité est infime, et pourtant il existe.
C'est ça.
Alors cette petite question voilà, que je pose au départ est un peu pour moi la base du bouquin.
Et de vos échanges. Hein, c'est une balade au fond, un papillonnage.
Un papillonnage, c'est ça, nous avons utilisé le papillon abondamment.
Exactement. Et pourquoi? Parce que le papillon a un rapport avec le chaos. Ivar Eklund.
Ah oui, ça, peut vous dire d'où vient le papillon. Hein, c'est que c'est difficile de faire quelque chose comme ça parce qu'on ne peut pas faire un cours. Hein. Bon, on ne peut pas faire un livre illustré non plus. Il faut quelque chose d'original. Donc, on peut parler, on parle, mais il faut d'autres personnages.
Et à ce moment-là, à un moment donné, Étienne m'a dit « Mais quel serait un animal qui représente le hasard ?» Ouais. J'en ai parlé à ma femme m'a dit « Mais tu prends un papillon. » Et c'était très bien.
Mais c'était bien cette idée, parce qu'effectivement, cette affaire de chaos, le oui. papillon, on connaît tous cette histoire. Oui. Bon, est-ce qu'elle est vraie, le battement d'aile du papillon et ses répercussions ?
Oui, elle est parfaitement vraie. Il peut, un battement d'aile de papillon peut, effectivement, il peut. Mais enfin, il y a beaucoup de papillons dans le monde, et ils battent beaucoup d'ailes de beaucoup de manières, et puis il peut y avoir autre chose. Ce qui fait que, ce battement d'ailes-là déclenche un jour une tornade, c'est comme si on gagnait à la loterie 60 millions de fois de suite. C'est cet ordre-là. Donc la possibilité est théorique.
Ouais. Étienne Lécroart, il y avait les mathématiques qui vous intéressaient déjà dans vos principaux et précédents travaux, en tout cas.
Hein. Oui, ça fait déjà un petit moment que je tourne autour des mathématiques. J'aimais bien j'aime toujours les mathématiques depuis longtemps, mais comme amateur, quoi. J'aime les jeux mathématiques. Maintenant, petit à petit, je me suis dit, je peux l'utiliser dans mon travail. Et donc, j'ai fait un livre qui est paru il y a déjà quelques années, qui s'appelle Contes et des Contes, dans lequel j'ai fait plusieurs bandes dessinées qui sont sur des contraintes mathématiques. Et puis, à la suite de ça, je me suis rendu compte que, vraiment, mon goût des mathématiques, il s'estompait pas du tout, au contraire. Et puis, donc, quand j'ai rencontré les gens qui font cette collection, David et
Nathalie.
Je les ai rencontrés par hasard au festival d'Angoulême et je leur ai dit, si un jour vous cherchez quelqu'un pour traiter des sciences dures, à savoir par exemple les mathématiques, moi je serais partant.
Vous dites vous-même, je les ai rencontrés par hasard. Par hasard. Alors qu'on voit quand même que vous avez un peu contré le hasard. Parcours quand même et votre goût pour les mathématiques, ça vous emmenait quand même un petit peu déjà sur la piste d'Ivar Ekelund.
Oui. Et vous voyez déjà que le problème mathématique apparaît parce que finalement, si on raisonne par là, tout est à une probabilité infime.
C'est ça.
Et pourtant, les choses se passent.
C'est ça.
Alors, comment peut-on penser ça, hein? Comment les choses se passent?
Est-ce que les mathématiques ont une réponse vraiment à cette question, alors, Ivar Ekelund? Parce que, évidemment, est-ce qu'en faisant appel au rationnel, hein, les mathématiques, on arrive à pouvoir
elles ont des
circonscrire
réponses, cette
problématique.
Oui, elles ont des réponses à certaines questions. Par exemple, si on lance un dé un grand nombre de fois de suite, tout le monde comprendra que le 1 va sortir une fois sur 6. Ça, les gens comprennent. Cette histoire de chaos en météo, ça veut dire que la météorologie, par exemple, est très sensible aux conditions initiales. C'est-à-dire qu'une petite modification de la température peut avoir de grandes conséquences. Donc, c'est difficile à prévoir. De ça, on tient compte. Là où on n'arrive quand même pas, c'est pour les choses qui ne se produisent qu'une fois. Qui va gagner la prochaine Coupe du Monde de football? Ça devient intéressant. Ouais. On a des éléments. On peut donner des probabilités, mais ça ne se reproduira qu'une fois.
Nos ordinateurs, les algorithmes, sont producteurs justement de réponses fiables?
Ils peuvent produire du hasard. Ils ne peuvent pas, ils ne vous diront pas qu'ils gagnent la Coupe du Monde de football. Mais l'ordinateur, vous avez une touche random, et la touche random, par des opérations internes qui sont déterministes, c'est assez curieux, des combinaisons de multiplication et de choses comme ça, arriveront à reproduire le lancement d'un dé. Ils arriveront à faire ça. Ils arriveront à reproduire du hasard.
Ouais. Le dernier dessin, en tout cas, de votre bande dessinée, c'est autour d'un arbre, justement, toujours la fin de cette conversation, avec ces propos que vous avez. Vous dites, cette tentative de cerner notre monde nous entraîne vers des vertiges de réflexion. Donc finalement, l'aboutissement de cette discussion, c'est ça. C'est qu'on n'a pas forcément la réponse et qu'au contraire, on se retrouve face à un gouffre de questions.
Oui, et puis ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on passe les limites du monde physique. Cette dernière phrase que vous dites, ça, on venait de terminer quelque chose qui correspond au fait que on peut démontrer mathématiquement que si vous videz une bouteille d'air, eh bien, au bout d'un certain moment, alors évidemment, elle se remplit tout de suite. Eh bien, au bout d'un certain moment, spontanément, l'air se videra de nouveau, parce que le jeu du hasard, finalement, ce sont des molécules, elles s'agitent au hasard, et un jour, elles partiront toutes, donc la bouteille sera vide de nouveau. Donc, en principe, on devrait voir les bouteilles pleines se vider. On peut le faire, c'est vrai, mais pour attendre ça, l'univers a le temps de mourir un nombre incroyable de fois. Donc, on a des résultats mathématiques comme ça, qu'on ne peut pas observer à l'échelle physique. Ouais. Sont-ils vrais ?
Il va dans le domaine de la santé. Le hasard joue beaucoup, justement. Pourquoi est-ce que telle ou telle personne déclare un jour une maladie? Est-ce que là, vraiment, ce ne sont que les clés du hasard?
Non, il y a la science, qui à mon avis est la seule base de la médecine moderne, dira non. On cherche des causes. Le problème, c'est que ces causes sont échelonnées les unes après les autres en série, en parallèle, de manière récurrente, et que c'est très compliqué parfois. Enfin, si vous regardez au cours des 50 dernières années les progrès qui ont été faits, c'est pas par hasard. Mais je pensais à la question en vous entendant, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? J'avais jamais réfléchi à ça. En réalité, le cerveau, lui, ne réagit jamais au hasard. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une perception. Le cerveau, c'est une machine qui est en dérivation sur l'environnement, sur le milieu social. On a des perceptions, on agit, on modifie l'environnement qui agit sur nous, etc. Mais finalement, on ne retrouve pas les causes de nos comportements, mais en réalité, elles existent. Simplement, ce sont des réflexions, c'est un traitement des informations qui se fait de manière inconsciente. On ne se rend pas compte qu'on agit, qu'on a nos comportements.
Ivan Eklund.
Oui, là, il est en train de reprendre des vieilles idées philosophiques qui sont celles de Spinoza. Spinoza disait, nous nous croyons libres parce que nous ne connaissons pas les causes qui nous font agir. Alors, je voudrais dire quand même, protéger pour
la,
dire...
La nuance, c'est oui. qu'on commence à comprendre comment ça se passe dans le cerveau.
On commence, comment ça se
Spinoza, il a été génial, mais il ne savait pas.
Oui, mais on va chercher une cause, puis il y a la cause de la cause, la cause de la cause, enfin, bon. Je voudrais dire quelque chose quand même sur la bande dessinée. Il y a la spécificité de la bande dessinée. Il y a des choses qu'on peut dire avec une bande dessinée que le texte ne correspond pas et que la photo ne transmet pas non plus. Vous parliez de l'arbre. La bande dessinée commence avec un arbre, il y a un arbre au milieu, ça se termine avec un arbre. Ça, c'est des choses qu'on ne peut faire qu'avec une BD. J'ai beaucoup de respect pour les BD.
Étienne Lécroix.
Oui, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'est pour ça que j'ai proposé de traiter un sujet mathématique. Ce qui m'intéressait vraiment, le principe même, c'était de traiter quelque chose qui, justement, n'a pas... Voilà, il y a eu un bouquin dans la même collection sur les requins. Les requins, bah, on sait, on va dessiner des requins. Là, quand on dessine un sujet comme ça, qu'est-ce qu'on dessine?
Ah
ça,
oui.
ça m'intéressait.
Ah oui, oui.
C'est de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner et qu'est-ce que moi, avec mon destin, je vais pouvoir amener de différent d'un livre. Ouais. Ivar a déjà écrit un livre sur le hasard. Je me disais, je vais peut-être amener une autre façon, en tout cas, de faire passer les choses. Et j'ai cherché ça.
Voilà. En l'occurrence, avec l'histoire, les concepts aussi qui vous servent beaucoup. On parlerait de l'évolution aussi pendant des heures, puisque le hasard joue un rôle absolument essentiel dans la sélection naturelle des espèces. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Donc, ce livre épatant, cette bande dessinée dans un format qu'on aime beaucoup, format de poche, hein, qui est très, très, très bien, le hasard, et qui paraît donc aux éditions Le Lombard. Avec la petite BD Tech des savoirs. Allez, dans un instant, on parle de la grossesse vue par les yeux d'un pauvre père.
Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I reign too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. To call me small island girl, now I travel the world. Anyway they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso.
Le véritable exploit des hommes, c'est d'arriver à supporter une femme enceinte pendant 9 mois. J'ai froid, j'ai faim, j'en ai marre, j'ai envie de vomir. Oh, tu dors? J'ai mal, c'est ta faute, je suis moche, tu m'aimes, je te déteste, fais-moi l'amour, ne me touche pas! Ah!
Mais tu vois pas que je suis heureux.
Voilà les joies de la grossesse. Cookie Calcaire, vous publiez cette bande dessinée Les 9 derniers mois de ta vie de petit con, publiée aux éditions Les Arènes BD. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que dit Florence Foresti, mais vous, évidemment, du côté du père?
Ah oui, moi j'ai tout un épisode là-dessus sur comment était ma femme pendant les 9 mois, sur toutes les situations où il faut s'attendre, tous les rebondissements.
C'est vrai. Vous êtes français, hein, vous vivez maintenant à Montréal. Et cette BD, on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est un blog donc au départ, c'est
oui,
ça?
Oui,
hein,
ça a commencé uniquement sur Internet. Via Tumblr et via Facebook.
Ouais. Donc vous, le lundi, vous postiez votre petit billet, c'est ça?
Exactement.
Racontant donc la grossesse de votre femme.
Et qui suivait les 42 semaines qu'on a vécues de grossesse. Il y avait un tout petit décalage de quelques semaines, mais c'était vraiment pas mal précis.
Et donc il y a eu un écho tout à fait particulier de la part des pères et des mères d'ailleurs.
Oui, la surprise c'était que 70% des gens qui le lisaient, parce qu'aujourd'hui Internet vous donne les statistiques, étaient des femmes. Et alors au début, j'ai cru que j'avais raté mon coup. Ouais. Je me disais, j'ai voulu faire un guide pour les futurs papas. Et puis en fait, j'ai principalement que des femmes. Mais en fait, j'ai découvert qu'elles le faisaient lire à leur mari ou à leur copain.
Ouais. Et donc, c'est devenu une BD au moment de la naissance de votre fils?
Oui, au moment de la naissance, vers la fin du blog, les arènes m'ont contacté et m'ont proposé d'en faire un livre. Donc évidemment, c'était une super surprise.
Ouais, donc, journal de mélange de journal intime aussi, hein, et puis de science, parce qu'on apprend plein de choses. Comme vous, d'ailleurs, vous avez appris plein de choses.
Hein. Oui, c'est ça. Il y a toutes mes découvertes à moi de la grossesse. J'essaie de faire beaucoup de vulgarisation. Mmh. En fait, ce que les femmes qui me contactaient m'ont beaucoup raconté, c'est que leur mari ou leur copain ne voulait pas lire de livres sur la grossesse, parce que pour les avoir lus avec ma femme, déjà, c'est pas beaucoup sur... Il y a toujours un chapitre sur le père. Oui. Qui est souvent une page, et en gros le résumé c'est ça va bien aller.
Et occupez-vous d'elle.
Mais c'est tout. Et donc pour les hommes, lire tout le reste du bouquin c'est un peu... Et donc j'avais beaucoup de femmes qui disaient, moi tous les lundis c'est le seul truc qu'on lit ensemble et au moins on a un sujet de conversation.
C'est ça.
Puis j'avais d'autres hommes, des futurs papas qui m'écrivaient, qui me disaient un peu ce qui les inquiétait, ce qui fait que moi, à travers le blog, en 42 semaines, j'ai pu adapter aussi à certains épisodes que j'ai écrits vraiment spécialement parce que quelqu'un m'avait contacté et s'inquiétait de quelque chose.
Avec votre trait très particulier, extrêmement drôle, j'avoue qu'on rit énormément en vous lisant, parce que vous racontez toutes ces étapes. D'ailleurs, vous servez des fruits aussi. Hein, pour... Alors là, c'est l'évolution vraiment anatomique de l'enfant. Donc, il y a ce petit repère au fil des semaines.
Oui, moi ça m'a fasciné ça, de voir le poids au fur et à mesure du fœtus et de l'embryon. C'est assez commun sur Internet qu'on vous donne ça comme référence, mais j'ai voulu le réutiliser parce que pendant longtemps, au début, ça m'a fasciné, jusqu'à ce que effectivement, je réalise que mon bébé, à la fin, allait être aussi lourd qu'une pastèque, et puis que j'essaie de porter à bout de bras une pastèque, et puis je me suis dit, ah ouais, il faudra que je fasse du sport un petit peu.
Et votre bébé, c'est Léon,
hein, oui,
qui est né donc le 18 septembre 2015.
Exactement.
Donc il n'a pas encore l'âge de lire votre bande dessinée, mais qui
non,
est
mais
sûr
il bave dessus en ce moment.
Ah, c'est vrai?
Oui, je donne, il bave dessus, il aime bien la mordre.
C'est déjà une façon de rendre hommage.
On a prévu une couverture assez épaisse avec l'éditeur pour être sûr qu'il puisse la dévorer.
Ouais. Vous êtes beaucoup inspiré de ce qui était écrit dans la littérature scientifique, justement, pour travailler aussi ce journal intime. Parce que vous dites bien à quel point il y a tout un vocabulaire, d'ailleurs, qu'on découvre aussi, hein,
ouais,
quand on arrive dans ce monde de la grossesse.
Beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de nouveaux termes. Donc j'ai essayé de vulgariser quand même pas mal de choses. Après, ça n'a pas non plus une je me suis assuré que ça n'avait pas non plus une valeur trop médicale.
Ouais.
C'était pas mon rôle du tout. Mmh. Le début de mon blog, il y a marqué, si jamais vous avez un doute, allez voir votre médecin. Arrêtez de lire ce blog. Je suis pas Doctissimo. Mais par contre, ça m'intéressait de effectivement vulgariser. Pour le coup, nous, on a eu une accompagnante avec nous pour notre accouchement. Et elle a fait beaucoup de vulgarisation pour ma femme et pour moi, sur les risques médicaux, sur tout ce qui pouvait se passer. Et moi, ça m'a fait énormément de bien. Et puis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la vulgarisation scientifique. Et puis d'ailleurs, la BD sur le hasard, là, je vais me jeter dessus après.
Ouais.
Mais parce que j'aime beaucoup aider les gens à mieux comprendre des concepts parfois complexes, mais avec des images toutes simples. Donc, il y a beaucoup de références dans ma BD à de la culture pop. J'utilise les X-Men, le Seigneur des Anneaux, le cinéma pour mieux faire comprendre certaines choses.
Une référence à Indiana Jones, un moment dans un lieu un peu inadapté, ou en tout cas un peu surprenant.
Sur les
vous parlez des seins de votre femme, c'est ça, hein?
Les seins de ma femme.
Vous parlez beaucoup de la sexualité aussi. Hein.
Ah, c'était important, oui.
Ouais.
C'est un sujet... J'ai quand même réuni pas mal de jeunes papas, au début, qui m'entouraient, puis je leur payais une bière pour les faire parler un petit peu. et notamment, le jour où je leur ai dit, et alors, le sexe pendant la grossesse? Alors là, il y a eu un blanc autour de la table, et j'ai réalisé qu'il n'y en avait aucun qui n'en avait jamais parlé aux autres.
Hyper tabou comme sujet, hein?
Pas hyper tabou, mais délicat.
Ouais.
Et tous s'en étaient bien sortis, hein. Ils vont tous bien aujourd'hui, et puis leur couple va bien, mais On sentait que c'était un peu quelque chose de difficile. Et donc, on a fait plusieurs épisodes. Ouais.
Et votre femme était d'accord pour que vous parliez de tout ça? Vous en avez discuté ensemble ou pas? Parce que c'est quand même très intime. C'est aussi un journal intime, quand même, sur votre couple.
Au tout départ, ça l'a surpris. Quand je lui ai dit que j'allais faire un blog BD, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu vas raconter, en fait? Je comprends pas. Les épisodes, notamment sur la sexualité, elle a participé. Elle a tout relu avec moi pour être sûre que...
Mais tout est vrai, alors, dans la BD? C'est l'histoire des SMS, parce que vous dites à quel point, entre deux nausées, c'est extrêmement difficile d'avoir des relations sexuelles avec sa femme, et qu'il faut presque envoyer un texto pour dire ça y est, c'est le bon moment.
C'est le seul moyen qu'on a trouvé.
Donc on avait un code. Envoyer des textos.
On avait un code, et quand elle m'a envoyé ce code-là, il fallait que je rentre à la maison, parce que c'est le moment. Donc j'ai eu des moments où j'étais en réunion, et puis je recevais un texto, et puis je disais, je suis désolé, je dois y aller.
Donc tout ça est vrai.
Mais c'était important, c'était vraiment important pour nous de trouver un moyen de bien le faire et puis de le faire confortablement, et c'était une bonne astuce.
Il y a ce dessin très drôle, Baby Simulator 3000 NT, qu'on retrouve au début, à la fin de votre livre. Alors ça, c'est vraiment, l'enfant est arrivé quasiment, et c'est le maelstrom total.
Comment on fait pour s'entraîner avec un enfant avant de l'avoir? Alors soit vous empruntez les bébés des autres.
On peut simuler avec tous ces...
Soit là, j'essayais de faire un simulateur avec une pastèque, un mégaphone qui crie toutes les 3 heures. Et puis je mets à la fin qu'il y a une petite déchiqueteuse sur le côté où je mets un billet qui simule mon budget qui va changer pour m'entraîner un petit peu. Mais oui, c'est ça c'est ça qui est un peu inquiétant au début, de se dire j'ai 9 mois pour m'entraîner, mais par contre, avec rien, avec en imaginant ce que ça va être d'avoir un bébé. Ouais.
Est-ce que l'arrivée de ce bébé, l'arrivée de Léon, c'est un peu le fruit du hasard aussi? On a l'impression, en lisant toute votre histoire, parce qu'il y a un flashback sur votre histoire aussi.
Hein. Alors oui, parce qu'on a une histoire un peu particulière, où on a été pendant 3 ans et demi en traitement de fertilité.
Ouais.
On a fait beaucoup de traitements différents, on a testé beaucoup de techniques, puis c'est très développé au Québec et au Canada. Et malheureusement, les traitements n'ont pas fonctionné, voire l'inverse. Ma femme a fini à l'hôpital, ça a été très compliqué. Donc, avec les médecins, on a décidé d'arrêter, de laisser tomber. Et nous, en tant que couple, on a décidé de partir. Puis on est parti 4 mois, loin, à l'autre bout du monde, en se disant, on va réfléchir. À un, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas d'enfant dans notre vie? Deux, qu'est-ce qu'on fait si on adopte? Puisque c'est souvent la prochaine étape. Puis au bout des 4 mois, quand on est revenu, elle est enceinte.
Et bien voilà, le hasard.
Donc là, c'est sans doute un papillon qui a dû battre des ailes. Ouais.
Non, il n'y a pas de hasard justement, Virginie.
Ils sont partis 4 mois.
Dans le micro, Yves. Vous ne voulez pas parler au micro aujourd'hui?
Pendant 4 mois, il n'avait que ça à faire, c'est ça la réponse. C'est donc pas le hasard.
Oui, oui, complètement. Et puis c'est ce que je raconte dans l'album, c'est que quand vous êtes en traitement comme ça de fertilité, le conseil que la plupart des gens vous disent, c'est non mais il faut juste arrêter d'y penser. Ouais. Ça va marcher.
Oui, c'est ça.
Puis ce qui est complètement impossible quand vous faites des traitements, parce que c'est des injections tous les 2 jours, c'est un calendrier immense. Et malheureusement ou heureusement, on devient le meilleur exemple de ça, c'est qu'aujourd'hui on raconte notre histoire en disant « Moi j'ai un couple d'amis, ils ont arrêté d'y penser, et bien ça a fonctionné.
» Ça s'appelle « Les 9 derniers mois », c'est extrêmement drôle et sensible. C'est aux Arènes BD et c'est vous qui signez donc cet album « Les 9 derniers mois de ta vie de petit con cookie calcaire ». Yves Agide, neurologue, membre fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et le 3 septembre prochain aura lieu la 2e édition de S3 Odéon. On s'y prend tôt d'ailleurs, Yves Agide, pour annoncer le programme.
Oui, mais quand on remonte un spectacle comme ça, qui a eu tellement de succès, il faut s'y préparer pour ça.
Alors, qu'est-ce que vous nous préparez justement? Sur quoi vous allez plancher pendant tout l'été pour donner de la science dans ce lieu quand même inhabituel, hein?
Ben, c'est toujours le thème, c'est toujours les défis de la santé de demain. D'abord, donc il y aura 3 actes. Un acte sur la médecine, quelle sera la médecine de demain. Un deuxième acte, quels sont les enjeux sociétaux, c'est-à-dire les conséquences économiques de ces changements brutaux qui vont avoir lieu, les conséquences philosophiques aussi, éthiques. Et puis peut-être ce qu'il y a de plus brutal, c'est les ruptures véritablement, les ruptures scientifiques. Donc il y aura 3 actes. Je rappelle que c'est quelque chose d'assez particulier. Au Théâtre de l'Odéon, il y a 1000 personnes et il y a 30 exposés de moins de 7 minutes.
Ah oui, vous faites aussi ce système 30 exposés de stand-up, de moins de 7
minutes, un peu, avec des intermèdes musicaux très brefs. Et puis surtout, deux entr'actes importants d'1 heure chacun, pendant lequel tout le public peut aller discuter avec les orateurs.
Ouais. Donc la première édition, c'était l'année dernière. Très bien marché.
Très bien, ouais, c'était assez spectaculaire, j'en revenais pas. Ouais. Et l'idée est belle, c'est une idée de bien public, c'est-à-dire de mettre à la comme vous, Aline, de mettre à la disposition du public dans un beau théâtre qui est quand même, avec toute sa renommée, son histoire, de mettre à la disposition toute cette connaissance.
Voilà, donc pour parler de la santé de demain, S3 Odéon, 3 septembre prochain.
3 septembre prochain,
donc
prochain,
on
ouais.
peut déjà
et la billetterie
noter ça.
Qui ouvre lundi prochain.
Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Planchez bien tout cet été. Et puis en attendant, allez voir The Conversation France. C'est sur Internet, Aline Richard.
Absolument. www.theconversation.fr.
Allez, bon week-end à tous. Merci.